évoquez la mémoire entraîne notre pensée à osciller d'emblée, on l'a vu, entre une certaine force, la puissance qu'elle peut représenter d'une part, et les fragilités qui sont les siennes d'autre part également. Donc prendre en compte ces fragilités, c'est donc certainement essayer d'y remédier, du moins tenter d'y remédier. La complexité même du fonctionnement mnésique et les facteurs multiples qui peuvent entraîner son dysfonctionnement obligent en fait le thérapeute à utiliser souvent plusieurs stratégies qui doivent rester complémentaires. Ainsi, c'est la mise en œuvre simultanée de ces différentes stratégies qui permettra d'apporter une aide utile dans des contextes qui sont tout à fait différents. Cependant, on ne doit pas penser en réalité, peu importe la stratégie employée. Comme on l'a vu précédemment, il s'agira au préalable à toute prise en charge d'effectuer une évaluation aussi précise que possible des difficultés mnésiques de la personne et d'envisager aussi, bien sûr, les besoins actuels et futurs de cette personne, comme par exemple une éventuelle réinsertion professionnelle. Les objectifs envisagés pour pallier aux problèmes de mémoire sont divers et peuvent ainsi, d'une part, tout d'abord essayer de restaurer ou d'améliorer le fonctionnement altéré ou de chercher à contourner la difficulté par l'aménagement de son environnement, par exemple. D'autre part, il peut s'agir d'aider à mieux utiliser ses capacités résiduelles de mémoire. Ainsi, et classiquement, les stratégies de rééducation se divisent en quatre approches différentes. Alors, tout d'abord, les stratégies de restauration apparaissent les plus fréquemment utilisées dans la pratique clinique courante. Or, comme on l'a vu, le docteur Bérard en a parlé juste avant, les plaintes de mémoire sont très variées et correspondent à des difficultés de nature très différentes. Et en fait, on ne peut pas dire en quelque sorte que le jogging mental fait par l'intermédiaire de ces stratégies de restauration se révèle utile pour restaurer entièrement dans leur fonctionnement antérieur les processus endommagés. Tout au plus, les progrès observés restent localisés uniquement à ce qui a fait l'objet d'un travail particulier. Par exemple, tenter de restaurer les faits arithmétiques lorsque ce sont ceux-ci qui sont lésés, altérés à un moment donné. Par contre, on peut dire que lorsque la rééducation consiste à réapprendre uniquement un ensemble limité de connaissances, comme l'exemple cité, alors elle peut se révéler pertinente. Il en est de même si le déficit mnésique semble lié à une perturbation de ce qu'on appelle les fonctions attentionnelles, l'attention. Voilà. Enfin, en l'absence de toute autre stimulation, ce fameux jogging mental, malgré tout, garde le mérite de représenter une certaine source de motivation pour la personne. Alors, les stratégies dont je vais vous parler ce soir, en fait, sont relatives à la rééducation des troubles mnésiques les plus fréquemment observés, et ce sont les troubles de la mémoire épisodique. Il semble par ailleurs plus judicieux d'envisager les stratégies de rééducation en fonction du degré de sévérité de ces troubles mnésiques, et non pas forcément en fonction des approches différentes dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure. C'est ainsi que l'on évoquera tout d'abord les stratégies de rééducation concernant les troubles mnésiques légers et modérés. En fait, ce sont ceux qui sont par exemple rencontrés fréquemment en cas de traumatisme crânien. Lorsque le déficit demeure donc léger à modéré et que par ailleurs le patient garde des capacités mnésiques résiduelles, l'objectif sera donc de lui apprendre à utiliser ses habiletés mnésiques plus efficacement ou à trouver une autre façon de mémoriser en se basant sur les processus qui sont restés intacts. Alors, on retrouve ici l'utilisation par exemple des moyens mnémotechniques verbaux par imagerie mentale qui peuvent s'appliquer à différents types d'informations. C'est par exemple l'apprentissage de noms de personnes, que ce soit les collègues de travail, les élèves du lycée, la liste de clients, etc. On retrouve également la mémorisation d'un texte. Et lorsque le problème est de récupérer une information en mémoire telle que le nom d'une personne familière, pendant qu'on est en train de serrer frénétiquement la main de cette personne, comme a dit et a illustré M. Gilles, on peut tenter par exemple de passer en revue l'alphabet pour essayer de retrouver le début du nom de cette personne. Ça peut être une aide efficace, parfois. si, je vous assure, je m'en sers de temps en temps. Donc voilà, je suis une preuve vivante de ça. Alors, on a également des techniques d'organisation de l'encodage. Vous avez vu tout à l'heure les procédés d'encodage décrits par Madame Pluchon. Il faut essayer de faire en sorte que cet encodage soit beaucoup plus riche, plus structuré. Il faut également essayer de le relier aux connaissances antérieures. C'est ce qui nous permettra par la suite de le récupérer. Voilà. Alors, il y a effectivement également aussi certaines études qui ont montré que des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer à un stade léger à modéré se souviennent mieux des actions qu'ils ont réalisées eux-mêmes que des actions que l'on leur a montrées ou décrites verbalement. Et ce, d'autant plus qu'on leur fournit en même temps ce qu'on appelle un indice de récupération. Donc c'est un moyen plus facilitateur encore pour eux. Donc ces stratégies, vous voyez, sont différentes et elles sont d'autant plus différentes si l'information à mémoriser reste signifiante. Par exemple, un texte ou alors cette conférence lorsque vous aurez à en parler à d'autres personnes, par exemple. Ou si l'information à mémoriser n'est pas signifiante, par exemple, associer un nom à un visage, eh bien, dans ce cas, on peut faire intervenir ce que l'on appelle l'imagerie mentale pour essayer de garder ce nom et ce visage. Alors, une des limites dans l'application de ces techniques, c'est la difficulté à les utiliser, bien sûr, dans la situation de la vie quotidienne, vous l'aurez compris. Et en effet, pour ce faire, il faut disposer en fait de beaucoup de ressources attentionnelles et toujours beaucoup de motivation. En plus, elles demandent une période d'apprentissage assez longue. Alors, en ce qui concerne les stratégies de rééducation, pour les troubles sévères de mémoire, les stratégies mnémotechniques que l'on vient de voir, d'évoquer, sont peu utiles lorsque les patients présentent des troubles mnésiques sévères. Ce sont les cas des patients qu'on appelle amnésiques, avec ce A privatif. En effet, ces stratégies reposent sur des capacités mnésiques résiduelles. Alors, il faut aborder une toute autre approche. Il s'agira d'apprendre en fait aux patients un ensemble de connaissances spécifiques à un domaine qui pourront essayer de lui être utiles au sein de la vie quotidienne. L'objectif est d'essayer de retrouver pour lui une parcelle d'autonomie et par là même d'améliorer sa qualité de vie. Alors, mais là encore, avant toute prise en charge, il apparaît nécessaire de déterminer très précisément les domaines spécifiques de connaissances qui seront importants pour telle ou telle personne, bien sûr. Alors, assez rapidement, par exemple, le point commun de toutes ces techniques est qu'elles cherchent à limiter les erreurs produites par le patient. En effet, un patient amnésique aura tendance à reproduire la même erreur, et ce, contrairement à quelqu'un qui n'a absolument pas de problème de mémoire. Donc, c'est ce qu'on appelle la technique d'apprentissage sans erreur qui doit être utilisée dans ce cas-là. Rapidement également, l'apprentissage se révèle plus efficace s'il est alors distribué dans le temps, et c'est-à-dire si l'on redemande à plusieurs reprises et après un délai très court de rappeler, par exemple, le nom propre ou un numéro de téléphone à retenir. Et par la suite, le délai de restitution sera un petit peu plus long pour vérifier l'apprentissage. Enfin, effectivement, il convient de revoir à intervalles réguliers les connaissances déjà enregistrées pour ne pas les voir disparaître. Alors, il faut savoir aussi que les patients amnésiques peuvent acquérir de nouvelles habiletés. Il s'agit par exemple d'acquérir un nouveau vocabulaire ou d'apprendre un logiciel comme un traitement de texte. C'est la mémoire dite procédurale dont vous avez entendu parler tout à l'heure qui va être sollicitée. Et donc, cette prise en charge peut concerner les personnes qui sont, par exemple, atteintes de la maladie d'Alzheimer, chez qui cette fameuse mémoire procédurale est maintenue. Alors, rapidement, je vais vous parler un petit peu des stratégies complémentaires. Ce sont les utilisations d'aides mémoire externes et l'aménagement de l'environnement. Alors, elles peuvent s'appliquer à la fois aux patients qui présentent des difficultés mnésiques légères, modérées, mais aussi des difficultés sévères. Et là, il faut insister sur le caractère complémentaire, en fait, de ces stratégies. Parce que souvent, pour un certain nombre d'ailleurs d'entre nous, l'usage de supports externes est perçu souvent comme un frein à l'amélioration des performances mnésiques et comme un frein à l'efficacité de la prise en charge. C'est l'idée, vous savez, communément admise, déclarant qu'il faut faire travailler sa mémoire et si on veut l'améliorer, il faut éviter tout artifice facilitateur, c'est-à-dire refuser en quelque sorte de noter sur un agenda, refuser de noter sur un calendrier, etc. Et en fait, ne pas les utiliser, ne pas utiliser ces artifices, serait en fait rendre mauvais service à cette mémoire. Alors, l'environnement peut être aménagé grâce à l'utilisation d'étiquettes sur les étagères, de traces sur le sol, de codes couleurs, c'est-à-dire des flèches de couleurs différentes qui symbolisent un trajet. La matérialisation par des couleurs, des portes et des clés également. Et de même, on peut aussi recourir à une disposition particulière des vêtements, etc. Alors, ces aides-mémoire externes sont représentées par des alarmes de montre, mais aussi par des pense-bêtes familiers. On connaît tous la croix dans la main, le nœud à son mouchoir. D'autre part, on y retrouve aussi les agendas, bien sûr, toujours les notes personnelles, les listes de courses, mais aussi le fait de solliciter l'aide d'une personne extérieure chargée de rappeler au patient ou à la personne qui a des troubles de mémoire ce qu'il doit faire. Enfin, il faudrait en fait pouvoir créer des agendas électroniques plus simples d'utilisation que ceux qui sont en vente actuellement. Ainsi, mon agenda sonne, donc je sais que je dois me rendre à tel rendez-vous. Alors, pour conclure, finalement, l'usage conjoint d'aide externe et d'une adaptation du comportement des proches aux difficultés mnésiques du patient entraîne en fait une diminution de l'anxiété, une meilleure autonomie et au final lui permet de conserver une motivation suffisante. Voilà, donc pour finir, je voudrais vous dire que ces techniques doivent rester concrètes, réalistes et modestes dans leurs ambitions et elles doivent toujours essayer d'être restées simples à mettre en œuvre. Proposer toujours à des personnes conscientes de leurs troubles, ayant envie d'entreprendre une rééducation et certainement soutenues aussi par un entourage. Voilà.